voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Gérard Mordillat. Ce soir, un rebelle du 20e arrondissement de Paris.
Gérard Mordillat, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ici chez vous, rue Saint-Ambroise, dans un appartement lumineux et avec énormément de livres, de tableaux, d'objets, de photos, de souvenirs. Bon, bref, un univers qui va nous occuper pendant ces quelques jours. Vous êtes bien connu des auditeurs de France Culture à l'émission Les Papous dans la tête, que vous avez fait pendant de très nombreuses années, à La Grande Table, et aussi d'autres émissions que vous faites à Radio France sur d'autres chaînes. Si l'on vous entend fréquemment, on ne sait pas tout de vous. Donc ces émissions vont nous donner l'occasion d'une conversation chaque jour de cette semaine, durant laquelle vous allez vous dévoiler. Gérard Mordillat, écrivain, disais-je, cinéaste, poète, militant, cycliste, vous êtes tout cela à la fois et encore bien d'autres hommes. Amoureux de l'amour, père, grand-père, ami très attentionné. Vous vous reconnaissez dans cette énumération rapide ?
Oui, parce que quand je pense à moi, je pense toujours à moi comme un artiste de variété. Et ce que vous venez de décrire, c'est exactement ça.
Très bien. Alors, pour les variétés, on va aujourd'hui, dans cette première émission, on va s'occuper de votre enfance, évidemment. Il faut toujours commencer par là. En lisant beaucoup de choses sur vous que vous avez écrit, il m'a paru que la meilleure présentation était celle de l'enfance d'un rebelle. Un peu en référence, vous l'avez compris, à l'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre. Et quand on voit tout ce que vous avez écrit sur vos origines, vous avez toujours revendiqué la phrase de Jack London que vous aimez beaucoup, « Je suis né dans la classe ouvrière ». La classe ouvrière, pour vous, c'est la classe supérieure.
Oui, il n'y a pas, pour moi, il n'y a jamais eu de classe supérieure à la classe ouvrière, parce que, qu'est-ce que la classe ouvrière ? Elle était appelée à transformer le monde, d'après Marx. Or, quelle ambition plus grande peut-on avoir que de transformer le monde et d'être la classe destinée à le faire ? Donc moi j'ai vécu toujours cela comme au fond une sorte d'élection, presque au sens religieux, d'être un élu de cette classe-là. Et j'ai grandi dans le 20e arrondissement, à Paris, près de Ménilmontant.
Et 222 rue des Pyrénées.
222 rue des Pyrénées, donc j'ai eu une enfance pyrénéenne, montagnarde. Mais surtout, ce quartier a une histoire. Et cette histoire, j'en suis une part, j'ai hérité de cette histoire. Parce que en bas de chez moi, la boulangerie s'appelait Marx. Donc j'ai grandi en mangeant le pain de chez Marx. Mais mieux que ça, dans la rue des Pyrénées, un peu plus bas, le fromager où on allait acheter le lait s'appelait Lacan. Ça ne s'invente pas. Donc j'ai bu le lait de Lacan et j'ai mangé le pain de Marx. Et c'est vrai que ce qui était important à ce moment-là, c'est que dans ce 20e-là, nous étions tous semblables, j'ai envie de dire.
Sur Paris, vous dites, vous écrivez beaucoup, vous adorez Paris. Vous dites d'ailleurs, on n'est pas de Paris, on est du 20e, on est du 11e, on est du 10e. Bon, vous avez toujours été dans cette partie 20e.
Toujours dans
Charonne,
l'Est.
Charonne, Vincennes un peu.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est une caractéristique des Parisiens. Quand on demande à un Parisien d'où il est, il dit jamais il est de Paris. Il dit je suis des Batignolles, il est de l'endroit où il est. Et moi, je suis du 20e. Je me rappelle d'une conversation avec Eddie Mitchell, qui lui était du 19e. Je lui dis ça sera difficile pour moi de te parler, parce que les types du 19e, dans le 20e, on ne les regardait pas.
Oui, je sais pas si c'est toujours comme ça, parce qu'on déménage beaucoup, Paris s'est beaucoup embourgeoisé, les prix ont monté. Je sais pas si ça reste encore aussi vrai que ça n'était.
Ça le reste en tout cas pour les vrais Parisiens, parce que regardez-moi bien, vous avez en face de vous une espèce en voie de disparition.
Hein ? Oui.
Mon père, mon grand-père, le grand-père de mon grand-père, sur 5 ou 6 générations, tous entre Belleville et Ménilmontant. Donc il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Et moi, je pense être, par exemple, la dernière génération à comprendre les chansons de Bruant sans dictionnaire, tout simplement parce que l'argot de Bruant, je l'ai entendu parler par les grands-oncles de mon père, donc des types qui avaient fait 14-18, etc. Donc ça venait de loin. Et c'est vrai que cette appartenance locale était très forte et reste forte pour moi. D'ailleurs, quand on me dit « d'où êtes-vous », je dis toujours « je suis du 20e ».
Oui, avec une petite nostalgie, j'ai trouvé une phrase de La rue des Rigoles, un de vos romans. « Aujourd'hui, il n'y a plus de marchands de quatre saisons dans cette rue des Pyrénées. Les vieux vous diront qu'il n'y a plus de saisons, il n'y a plus que des marchands. »
Oui, ben, c'est un peu triste, parce que maintenant, il n'y a plus non plus de boulangerie Marx ni de crèmerie Lacan. Et on voit quand même la perte immense que ça représente pour l'ensemble de la population.
Alors, il y a les lieux, il y a naturellement la famille. La famille, ce sont... On va revenir sur chacun d'eux parce que c'est très important. Vos mères, je dis bien vos mères, votre frère et votre père. Alors, les mères, parce que vous revendiquez la tante Suzanne et Madeleine.
J'ai eu deux mères d'une certaine façon parce que ma mère s'appelait Madeleine et sa sœur aînée s'appelait Suzanne. Et la vie a fait que, bien entendu, je passais toutes les semaines dans ma famille avec ma mère, mais que je passais le week-end avec ma tante. Et surtout que je partais tous les ans en vacances avec ma tante. Et l'une et l'autre étaient d'un caractère très différent. Ma mère avait un côté très sombre, très douloureux, et ma tante était plutôt une rieuse. Elle aimait faire de la marche à pied, de la natation, aller voir les films de Fernandel et de Bourville. C'était une autre façon d'être. Et ma tante n'avait pas eu d'enfant, donc j'ai été une sorte de fils pour elle. Je l'aimais beaucoup comme une mère, je n'ai pas d'autre mot. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir eu deux mères, une pour la semaine et une pour le week-end.
Une pour rire, l'autre pour pleurer.
C'est ça, oui.
Alors tous les deux, enfin toute la famille, ils étaient dans un milieu à la fois communiste, anarchiste. La mère, c'était plutôt l'anarchiste.
Ma mère était d'origine belge et elle était de nationalité américaine. Elle était devenue française par mariage. Et sa famille d'origine était des libres penseurs, ce qui nous amène quand même, disons, au début du XXe siècle, peut-être même à la fin du XIXe, ce qui est quand même assez rare. Donc une famille très anticléricale. Et ma mère a porté ça toute sa vie. Et c'est vrai qu'elle était plutôt d'esprit anarchiste. C'est-à-dire que tout ce qui représentait pour elle le pouvoir était une chose à combattre, quelque chose qu'il ne fallait jamais accepter et qu'elle n'acceptait pas. Ma tante, c'était pas le même genre. Ma tante avait eu des faiblesses à un moment, je crois, de voter pour le général de Gaulle, ce qui fait qu'elle se faisait houspiller dans la famille pour avoir trahi tout ce qu'il fallait trahir. Et donc, ça venait de ça. Mais ce qui était important, c'est que elles avaient l'une et l'autre cette histoire avec l'Amérique, puisque mon grand-père maternel était musicien dans l'orchestre du Barnum & Bailey et qu'elles avaient suivi le cirque. Ma mère était née à Vancouver, donc en Colombie-Britannique. Ma tante, elle, était née en Belgique. Un autre frère était né à Buffalo, New York. Le quatrième frère était né à Paris. Il suivait le cirque.
International.
Voilà, oui, c'est ça, absolument international.
Mais pas l'international du capital.
Non, pas du tout.
Mais alors, quant à votre père, il était, si j'ai bien lu, serrurier à la SNCF. C'était vraiment le milieu ouvrier.
Mon père avait était orphelin de guerre. Hein. Son père avait été tué en guerre de 14-18 et il était orphelin. Et il a commencé très tôt à travailler, vers 10-11 ans, avec ses oncles du côté de sa mère, qui l'ont fait travailler dans la charpente en fer, très tôt. Il a eu, je ne sais même pas s'il a eu le certificat d'études, si je crois qu'il l'a eu, bref, mais il a tout de suite travaillé. Et puis la guerre de 39-45 est arrivée, il a été prisonnier, et en revenant, il a travaillé un peu partout jusqu'au moment où il est entré à la SNCF comme serrurier. Il a travaillé comme serrurier là-bas. Mais il vient d'un milieu, évidemment, tout à fait ouvrier et populaire.
Il était syndiqué, il militait, il était...
Mon père a été syndiqué à la CGT. Je crois qu'il a rompu avec la CGT plutôt après 36 ou 37, etc. Il y a eu des conflits intérieurs. Il avait le sentiment de ne pas avoir été soutenu comme il aurait dû l'être dans les combats qu'il a menés. Mais enfin, il a toujours été de cœur un militant syndical. Et là aussi... un électeur du Parti communiste, bien qu'il n'ait jamais été membre du Parti communiste, mais c'était traditionnellement, évidemment, le parti vers lequel il fallait aller quand on appartenait à la classe ouvrière.
Oui, ça faisait pas de doute, le 20e, la boulangerie Marx, le père engagé, et il y a aussi votre frère. Votre frère qui compte beaucoup pour vous, vous avez beaucoup écrit sur lui et vous y êtes très, très attaché. Vous étiez plutôt l'intellectuel et lui plutôt le manuel. Si on peut dire.
Oui, si on peut dire, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai, parce que mon frère, par exemple, était si bon élève que lorsqu'il a voulu quitter l'école, le directeur était venu voir mes parents pour dire que, mais il faut qu'il fasse des études, etc. Mais mon frère ne voulait pas faire ça, il voulait faire l'apprentissage qu'il a fait dans l'école de la SNCF. Je crois même qu'il en est sorti tout à fait major de sa promotion. Et il a fait ce qu'il aimait. Il aimait travailler de ses mains, il aimait fabriquer les choses, etc. Mais c'était aussi un intellectuel, c'est un lecteur absolument époustouflant. Et notamment, il lit par exemple très bien, très supérieur à ce que je peux faire, il lit en anglais de façon magnifique.
Le Yehudi Menuhin du pied-à-coulis, écrivez-vous. Ah, oui, le Léonard de la mécanique.
Non, mais c'est vrai, il est d'une méticulosité et d'un art extraordinaire. Quand on voit chez lui, qui est dans l'appartement comme ici, de quelle manière il refait ou la cuisine ou la salle de bain ou les pièces, on se dit qu'il pourrait refaire Versailles, tellement c'est soigné et délicat.
« Cher frangin », lui écrivez-vous. C'est le titre d'un de vos films, d'ailleurs.
Oui, « Cher frangin », parce que, en fait, on a eu deux vies assez séparées, mon frère et moi, puisque nous avons 13 ans de différence. Lui, il est l'enfant de la grève de 36, et moi, d'une certaine manière, je suis l'enfant de la révolution chinoise, octobre 49. Donc, on a 13 ans qui nous séparent. On a eu deux vies différentes, bien entendu, mais pas comme deux frères qui auraient 2 ans d'écart. Donc, oui. Bien sûr, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour entre nous, mais il y a aussi cette distance qui fait qu'il y a... toujours une interrogation, au fond, parce que mon frère a fait partie des enfants évacués pendant la guerre devant l'avancée allemande, et ça a été une chose terrible pour lui, sur lequel il n'a d'ailleurs jamais beaucoup parlé, mais d'être séparé de sa mère, puisque mon père était déjà parti au front, c'est une expérience affreuse quand on a 6 ou 7 ans, même qu'il est très très bien tombé. Il est tombé chez des gens admirables et qui sont devenus d'ailleurs une sorte de seconde famille pour lui et 13 ans plus tard pour moi.
Oui. Bon, Gérard Mandilla, on vous voit bien dans cette famille, on voit bien comment ça se passe. Mais alors, pour arriver à parfaire vos connaissances, vous parlez aussi beaucoup de vos instituteurs. Vous êtes un enfant, Gérard Mandilla, de l'école laïque.
Oui.
Alors, Monsieur Pinault, Madame Vincent, Madame Bourdon.
Oui, et Monsieur Elie surtout.
Monsieur Elie.
Non,
monsieur.
Mais j'ai eu la chance de faire ma scolarité primaire à l'école Sorbier, dans le 20e, qui est une espèce d'immense bâtiment de briques rouges. Et à ce moment-là, Sorbier était une sorte d'école d'avant-garde, si je puis dire. Je parle... donc des années, j'ose pas le dire, 55. Mais à ce moment-là, déjà, au cours préparatoire, on faisait ce qui ne se faisait pas à l'école, de travailler en groupe, de faire des activités ensemble. Les plus malins étaient appelés à éclairer ceux qui étaient un peu bas de plafond. Enfin, il y avait toutes ces choses-là, cette idée que ce qui comptait, c'était le collectif, c'était la classe. Il n'y avait pas d'individualisation. Il fallait que les choses se fassent ensemble. Et... il y avait surtout une réaction très importante à ce qui se passait réellement. Alors c'était soit du côté farce, je me souviens qu'un jour nous étions en classe, cours préparatoire, et il s'est mis à neiger. Donc évidemment, on avait tous la tête dehors pour regarder ça, et Monsieur Vignon nous a tous fait sortir les petits dehors pour qu'on puisse faire une bataille de boules de neige avant que les grands qui sortiraient en récréation détruisent tout. C'était cette idée-là. Comme il nous a enseigné les fractions, si j'ose dire, en emmenant des babas au rhum et en nous faisant À 6 ans, manger des babas au rhum au cours préparatoire, coupé en 4, multiplié par tant pour savoir combien il fallait de parts et combien de choses, c'était formidable. Et puis il y a eu en CM2 un instituteur qui lui a fait une chose qui je crois a beaucoup compté pour moi sans que je m'en rende compte à ce moment-là, c'est que tous les jours avant de faire la classe, il nous a lu l'histoire de la Révolution de Michelet. Une lecture. Il y avait pas de discussion.
Pendant toute l'année, tous les jours.
Tous les jours. Il lisait pendant, j'ai l'impression, 10 minutes, un quart d'heure, et on suivait ça comme un feuilleton. Enfin, moi, j'ai encore en mémoire le moment de Charlotte Corday quand elle va acheter le couteau, etc. Nous étions là, on écoutait. On écoutait cette langue extraordinaire de Michelet. Mais il n'y avait pas de devoir à faire, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas d'interrogation. C'était juste écouter.
À quel âge? Quel âge vous aviez, là, à ce moment-là?
Je sais pas, 9 ans. 10 ans, oui. Voilà. Et c'était une très forte pédagogie.
Oui. Mais chez vous, on lisait beaucoup. Il y avait beaucoup,
oui,
de livres aussi.
Oui, oui. Mes parents lisaient beaucoup. Enfin, tout le monde lisait. Mon frère, mon père.
Mais il lisait quoi?
Il lisait des romans, oui. Beaucoup. Il lisait aussi le journal tous les jours. Voilà. On lisait aussi bien Victor Hugo que Malraux que ce qui se trouvait. Bon, ma mère aussi lisait beaucoup en anglais. Il y avait toujours quelque chose.
Elle était professeure d'anglais.
Oui, ma mère était professeure d'anglais. Mais il y avait toujours des livres, il y avait toujours des journaux, il y avait tout. On était abonnés à La Vie du Rail, on lisait La Vie du Rail. Enfin, il y avait toujours ça. Mais je pense que c'était une époque aussi où tout le monde lisait, et lisait beaucoup.
Là, on est dans les années 60.
Quoi, oui, on lisait beaucoup, tout le monde. Et on allait beaucoup au cinéma.
Oui. Avec vos parents?
Oui, de façon, là aussi, fractionnée, parce que j'allais tous les jeudis au patronage laïque de l'école Sorbier, où, pendant toute mon enfance, j'ai vu tous les jeudis les deux mêmes films. Une fois, on voyait Bim le petit âne d'Albert Lamorisse, et la semaine suivante, on voyait Laurel et Hardy au Far West. Ça nous plaisait toujours autant, alors que c'était toujours les mêmes. Et puis, le samedi soir, j'allais au cinéma avec ma tante. Alors là, on allait plutôt voir, elle était une grande fan de Fernandel et de Bourville et des comédies, donc on allait voir ça. Et puis, le dimanche après-midi, j'allais au cinéma avec mon père, où là, on allait plutôt voir des westerns ou des films de guerre.
Donc, très tôt, vous avez été initié aussi bien à la littérature qu'au cinéma. Et puis, le 20e, c'est aussi... Le Père Lachaise, le mur des Fédérés, la Commune de Paris, ça comptait beaucoup aussi, toute cette histoire.
L'histoire.
Je pense à la Commune de Paris en particulier, dont vous parlez souvent, enfin qui vous a inspiré. C'est lié à l'enfance, ça, ou pas ?
Oui, bien sûr, parce que le 1er mai, mon père m'emmenait toujours avec lui au mur des Fédérés, le mur où ont été fusillés les derniers communards au cri de Vive la Sociale. Et donc il y a une cérémonie à chaque fois, tous les 1er mai, devant ce mur où on se rappelle à la mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour la Commune. Et moi, je me souviens d'avoir vu ces gens qui devaient être d'ailleurs sans doute des fils de communards. Enfin, pour moi, c'était des vieillards à moustache avec des drapeaux rouges et des têtes extraordinaires. Et ça a beaucoup compté parce que l'histoire de la Commune, elle est inscrite aussi dans le 20e. Quand on allait voir un de mes oncles, on passait près de la rue Axo. Mon père me racontait l'histoire de la rue Axo. Et puis, il y a une légende familiale que je trouve merveilleuse, qui mérite d'être vraie, qui est que mon arrière-grand-père maternel, le grand-père de mon père, aurait été, avec sa femme, parmi ceux qui ont tenu la barricade de la rue de Tourtille. Pourquoi on pense ça? Parce que simplement, mon père racontait souvent que la famille avait eu de la chance, on aurait pu être canaque ou pied noir, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être déportés, comme ont été déportés les communards. Mais le plus beau, c'est pas ça, c'est que ce grand-père, qui était une force de la nature, qui était une personnalité à Belleville, etc., passait pour avoir été le modèle, l'inspirateur de Rimbaud sur son fameux texte « Le forgeron ». Il paraît que c'était lui. Moi, je veux croire que c'était lui, mais...
Bien sûr, oui. Et cette date, vous la célébrez toujours ?
Toujours, oui.
Vous allez toujours au mur des Fédérés ?
Je vais toujours aux manifestations du 1er mai.
Ah oui.
Je ne suis plus allé au mur des fédérés depuis quelque temps, mais je vais toujours aux manifestations et je vais toujours saluer, quand je les vois, les gens qui s'occupent, les amis de la commune, quoi, voilà.
Avec vos enfants?
Avec mes enfants, et je leur ai raconté cette histoire.
Oui.
D'ailleurs, ils en ont un peu marre.
Donc la transmission est assurée. Et alors sur les dates, parce que 1870, bon, là vous êtes né dans les années 50, quels sont vos premiers souvenirs politiques ou les dates qui vous ont marqué dans votre enfance?
Ben, mon premier souvenir, c'est une manifestation auquel nous sommes allés tous ensemble, toute l'école, qui était une manifestation au moment où De Gaulle avait pris des mesures pour donner des fonds exceptionnels à l'enseignement privé, religieux, catholique. Et je me souviens que nous sommes tous allés au bois de Vincennes, une immense réunion, où l'orateur principal était Jacques Duclos, et où nous crions, je me souviens encore du slogan « Debray aux eaux, la girafe au poteau ». Voilà, c'était ce dont nous...
Ça marchait.
Ça marchait très bien, oui. Non, mais ensuite, il y a eu, c'est vrai, il y a eu ces manifestations, mais aussi, ça, c'est une des choses importantes. Parce que, dans le 20e, à l'école Sorbier, tous les instituteurs et toutes les institutrices habitaient dans le 20e.
Oui.
On les voyait à l'école, mais on les voyait dans les magasins, on les voyait au billard, on les voyait dans la rue. Et puis, on les voyait aussi dans les manifestations, parce qu'à ce moment-là, c'était la guerre d'Algérie, et qu'il y avait très souvent des manifestations où nous allions. Et donc, parents, instituteurs et enfants, tout le monde se retrouvait ensemble. Et ce sentiment était très fort, quoi, d'avoir une sorte de conscience collective, de conscience politique, de conscience sociale, et qui venait, là encore une fois, très directement du 20e.
Oui, ça a beaucoup changé, ça, hein.
Ah oui, ça n'existe plus. Non,
et ici, rue Saint-Ambroise, dans le quartier, vous retrouvez ça, près de la République?
Non, je ne retrouve pas ça ici. Non, on est ici dans un quartier bourgeois, disons maintenant, populaire et bourgeois. Il y a pas, c'est pas le 16e arrondissement, mais le grand changement, le changement fondamental aussi, c'est que quand j'étais enfant, nous étions toujours dehors, toujours à traîner dans la rue. Pour une raison importante, tous nos parents travaillaient. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes traînent dans les rues pour une autre raison, c'est que leurs parents sont à la maison parce qu'ils sont au chômage. C'est deux mondes différents. Ce n'est pas, on ne grandit pas de la même manière. Je veux dire, nous, il y avait cette idée-là que, voilà, c'était notre ambition, c'était un jour simplement de ramener notre paye. Et on savait que ça se ferait, et il n'y avait pas l'angoisse de « qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Jamais on ne s'est posé cette question-là.
Oui, non, c'est une époque qui a plus rien à voir.
Plus rien à voir.
Sur les dates, Gérard Mandilla, vous avez rappelé les souvenirs de l'époque de la guerre d'Algérie, qui évidemment a sans doute beaucoup compté pour vous. Et puis après, il y a une date, je franchis quelques années, hein, qui a été fondatrice, et je voudrais quand même en dire deux mots, c'est le 11 septembre.
73.
Mais pas celui qu'on croit.
Oui. Ah oui.
Le 11 septembre 1973, Gérard Mandilla, c'est la chute d'Allende.
Oui, c'est la dictature de Pinochet qui s'installe avec la complicité active des Américains, de Nixon et de Kissinger. Kissinger à qui on donnera le prix Nobel de la paix, un assassin, c'est incroyable. Et c'est vrai que plus que mai 68, le 11 septembre 1973 a été pour, en tout cas, ma génération et les amis qui étaient autour de moi, un choc terrible, une horreur absolue, parce que Allende représentait finalement un espoir extraordinaire d'application politique de nos idées. Ce qu'avait fait Allende, on se disait, mais c'est exactement ce qu'il faut faire sur le plan politique. D'abord, il avait nationalisé les grandes entreprises, notamment le cuivre qui jusqu'alors était accaparé par les Américains. L'enseignement était gratuit, de la maternelle jusqu'à la fac. Il avait mené une très grande réforme agraire pour redistribuer les terres vis-à-vis des paysans les plus pauvres. Enfin, toutes ces choses-là, il paraissait un homme à la fois d'une très grande intelligence, d'une très grande intégrité, et puis qui mettait en application tout ce à quoi nous avions pu espérer.
Et d'une très grande culture aussi.
Une très grande culture. Or, d'un seul coup, les Américains, c'était insupportable pour eux. Allende avait été élu. Or, la théorie américaine, c'est que quelqu'un qui est un marxiste, un socialiste, un communiste, ne peut prendre le pouvoir que par la force. Là, Il l'avait pris par la voie des urnes. Insupportable. En plus, qu'est-ce qu'il faisait? Il distribuait les revenus du pays de façon la plus large possible pour que tous les citoyens aient le sentiment de participer à l'effort de la nation. Insupportable. Ensuite, il refusait de payer les actionnaires américains, notamment les propriétaires des mines de cuivre, sous prétexte qu'ils avaient déjà tellement volé le Chili qu'ils étaient largement payés. Insupportable aussi. Et donc, ils ont organisé cette opération militaire, criminelle, qui a renversé Allende. Mais c'est pas tout. C'est que le lendemain de la chute d'Allende, ils ont envoyé un commando d'économistes, les Chicago Boys, qui avaient été les élèves de Milton Friedman, pour ruiner sur le plan économique tout ce qu'avait fait Allende. Et ce que nous vivons encore aujourd'hui ici est le contre-coup de cette histoire-là. Parce que ce qu'on appelle le néolibéralisme, il est né réellement dans la pratique ce jour-là. Et c'est terrible. Donc ça a été une date fondamentale, et ça l'est encore pour moi.
Bon, je crois, Gérard Mandilla, que vous êtes rentré là dans l'âge adulte. On a quitté les zones de l'enfance, de la formation, et on voit bien que l'évocation du 11 septembre 73, ça reste un coup terrible. Donc on va y revenir, parce que je pense qu'à partir de là, vous avez pu commencer une œuvre, après toute cette période d'initiation à la vie familiale, politique, et celle qui a forgé vos convictions les plus profondes. Merci Gérard Mandilla.
Merci.
À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.